Radio Prague, les informations. Bonjour, Petr Nečas était en Israël ce jeudi. Selon lui, la République tchèque est opposée à l'application de mesures unilatérales concernant la Palestine. Énergie, Daniel Benesch remplace Martin Roman au poste de directeur général de ČEZ. Et puis enfin, l'autoroute D8 reliant Prague à Dresde devrait être achevée en 2015. C'est du moins ce que promet le ministre des Transports. Le chef du gouvernement, Petr Nečas, était donc en visite en Israël ce jeudi. Il y a notamment été reçu par son homologue Benjamin Netanyahou. À l'issue de cet entretien, Benjamin Netanyahou a déclaré qu'il se rendrait la semaine prochaine à la session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies afin d'y expliquer la position d'Israël concernant la volonté de reconnaissance de l'État de Palestine. Petr Nečas et Benjamin Netanyahou se sont entendus sur le fait qu'ils n'étaient pas favorables à l'application de mesures unilatérales pour résoudre la situation au Proche-Orient. Les dirigeants palestiniens entendent réclamer auprès de l'ONU la reconnaissance des territoires autonomes palestiniens comme État. Petr Nečas ne s'est cependant pas exprimé clairement sur la question de savoir quelle serait la position de la République tchèque en cas de vote d'une résolution. Selon lui, Prague ne connaît pas encore le contenu de la demande palestinienne, ni même la nature de la procédure que les dirigeants palestiniens souhaitent faire valoir. Petr Nečas a néanmoins précisé que dans le contexte actuel, la République tchèque et Israël se soutenaient mutuellement au sein des institutions internationales. Martin Roman quitte son poste de directeur général de ČEZ, la société nationale de production et de distribution d'électricité. Martin Roman a demandé lui-même à être relevé de ses fonctions qu'il remplissait depuis 2004. Il occupera désormais le poste de chef du conseil de surveillance. C'est le directeur exécutif actuel de ČEZ, Daniel Benesch, qui lui a succédé au poste du directeur général. Selon des milieux proches du Premier ministre, le nouveau directeur devrait s'occuper en priorité du projet d'achèvement de la centrale nucléaire de Temelin en Bohême du Sud et de la construction de deux nouveaux réacteurs. Le tronçon manquant de l'autoroute D8 qui doit relier Prague à la frontière tchéco-allemande et à Dresde en passant par Oustin ad Labem en Bohême du Nord sera achevé en 2015 au plus tard. C'est du moins ce qu'a annoncé ce jeudi le ministre des Transports Pavel Dobesch qui a précisé que le projet faisait partie des priorités du gouvernement. Celui-ci entend demander une subvention à la Commission européenne pour financer les travaux. Pour cela, le projet doit cependant être achevé d'ici à 2015. Dans le cas contraire, tous les frais de réalisation seront à la charge de l'État tchèque. La commission chargée de définir les conditions auxquelles l'usage thérapeutique et scientifique du cannabis pourrait être légalisé en République tchèque s'est réunie pour la première fois à Prague ce jeudi. Cette commission est composée de médecins, pharmaciens, représentants des ministères de la Santé et de la Justice, ainsi que de membres de la police et de spécialistes des drogues. Selon le coordinateur national anti-drogue, le groupe de travail devrait rendre un avis dans les prochaines semaines, et ce de façon à ce que le gouvernement et la Chambre des députés reçoivent les projets d'amendement aux lois avant la fin de cette année. Selon de récents sondages, 78% de la population tchèque est favorable à la légalisation du cannabis à des fins thérapeutiques et de recherche médicale. On passe au sport. L'équipe de République tchèque de volleyball a été éliminée du championnat d'Europe qu'elle organise conjointement avec l'Autriche en match de barrage pour les quarts de finale. Mercredi soir à Karlovy Vary, les Tchèques ont été battus par la Pologne 3-7-1. Les quarts de finale de l'Euro sont disputés ce jeudi à Karlovy Vary et à Vienne en Autriche. La France est notamment opposée à la Serbie. On termine avec un mot de météo. Après la dissipation de quelques brumes matinales, c'est un grand soleil qui règne sur l'ensemble du territoire ce vendredi, jour de la fête des Ludmila. Les températures sont stables et varient entre 18 et 23 degrés pour les maximales. Un retour des nuages est toutefois prévu à partir de samedi après-midi. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. J'ai le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention. Merci également de rester encore quelques instants en notre compagnie et plus précisément en la compagnie de Václav Richter que vous retrouvez tout de suite. Faits et événements en République tchèque.
Le départ du directeur général de la société ČEZ, producteur principal de l'énergie électrique en Tchéquie, suscite de nombreuses questions. À partir de vendredi jusqu'au 9 octobre 2011, le Carolinum de Prague accueille la nouvelle édition du World Press Photo. Quels sont les thèmes dont nous vous entretiendrons au début de notre émission? La suite sera consacrée à la rubrique « Les Tchèques célèbres et moins célèbres » dans laquelle Magdalena Hrozinková vous présentera Madame Dagmar Šimková, femme d'exception qui a passé 14 ans dans les geôles communistes. Merci de rester avec nous et bonne écoute. Martin Roman, homme qui symbolisait la réussite économique, s'en va. Le directeur général de la société Chase a été relevé de ses fonctions sur sa propre demande par le premier ministre Petr Nečas et sera remplacé par l'actuel directeur exécutif de la société, Daniel Beneš. Le départ d'un des hommes les plus puissants de l'économie tchèque a suscité aussitôt toute une série de spéculations sur les causes de sa décision. Le groupe Chase est le plus grand producteur d'énergie en République tchèque et la plus grande société cotée en bourse d'Europe centrale. Son capital dépasse 400 milliards de couronnes, quelque 16 milliards d'euros. 70% des actions de Chase sont en possession de l'État tchèque qui gère ses biens par l'intermédiaire du ministère des Finances. Les succès économiques de la société sont dus sans doute à sa situation privilégiée dans l'espace économique tchèque, mais aussi en partie à la direction et à la stratégie de Martin Roman. Il est donc d'autant plus étonnant que cet artisan du succès de Chase et de son expansion à l'étranger décide de quitter cette mine d'or. En annonçant la nouvelle, l'attaché de presse du gouvernement Jan Osuch s'est limité à un constat de fait.
Monsieur Roman est relevé de ses fonctions à sa propre demande. Je le regrette, mais je ne peux ajouter pour le moment d'autres commentaires à cette information.
Dans une déclaration pour le journal Lidové Noviny, Martin Roman indique avoir demandé au Premier ministre de le relever des fonctions de directeur général et de chef du conseil d'administration de Chase et avoir accepté le poste de directeur du conseil de surveillance de la société. Selon une information citée par le journal se référant au milieu proche du Premier ministre, Petr Nečas souhaiterait que le nouveau directeur centre ses activités sur l'élargissement de la centrale nucléaire de Temelin. Les experts qui s'interrogent sur les causes profondes de ce départ l'attribuent en partie au changement que subit actuellement l'espace économique européen. Le rédacteur en chef du magazine Euro, Pavel Paral, estime que le nouveau directeur de Chase sera obligé de prendre toute une série de décisions essentielles.
La société Chase fera l'objet de diverses pressions à cause du projet d'élargissement de la centrale nucléaire de Temelin. Cette pression viendra notamment de la part des pays de l'Union européenne, surtout après la décision de l'Allemagne de mettre fin à l'exploitation de l'énergie nucléaire. L'Allemagne tâchera donc sans doute de bloquer le programme nucléaire aussi en République tchèque. Il y a donc toute une série de pressions qui pourraient nuire aux résultats économiques de la société Chase.
Selon l'analyste de la société BH Securities, Petr Hlinomas, il semble qu'une étape de l'existence de Chase touche à sa fin. À son avis, le géant de l'industrie énergétique change de stratégie et réduit ses projets d'expansion.
La société Chase passe à la consolidation et cherche à centrer ses activités sur le marché tchèque. Elle y est poussée par l'évolution économique, mais aussi par les projets de régulation et les conséquences de l'introduction massive de centrales photovoltaïques dans le système énergétique en République tchèque. Ce changement de stratégie pourrait être souhaité en ce moment aussi par l'État, qui est le plus grand actionnaire de la société.
Le journal Mladá Fronta Dnes met le départ de Martin Roman en relation avec les informations sur son engagement dans la privatisation des sociétés Škoda Holding et Mostecká Uhelná. Martin Roman rejette néanmoins fermement toutes ces spéculations qui risquent de le compromettre. À partir de vendredi et jusqu'au 9 octobre 2011, le Carolinum à Prague accueille la nouvelle édition de World Press Photo. Créé en 1955 aux Pays-Bas, World Press Photo est une organisation indépendante qui vise à récompenser les meilleures photos journalistiques. Et depuis les années 1990, le palmarès est aussi présenté à Prague. Anna Kubišta.
Cette année, c'est la photo de la photographe sud-africaine Jodie Bieber, représentant Bibi Aisha, jeune afghane au visage mutilé, qui a remporté le premier prix du World Press Photo pour l'année 2010. C'est la première fois qu'un portrait remporte le premier prix, et pour cause, le visage de Bibi Aisha, dont le nez a été tranché parce qu'elle avait fui son mari violent, exprime à la fois toute la beauté et la détresse des femmes afghanes. 54 photographes de 23 pays ont été récompensés cette année. Quels sont les grands événements que l'on peut retenir pour 2010 par l'objectif de ces photoreporters? Réponse de Michaela Kindlova, coordinatrice du World Press Photo à Prague.
Je distinguerai deux groupes. D'un côté, les catastrophes naturelles et leurs conséquences sur les gens. D'un autre côté, les combats et accrochages de diverses guerres locales qui n'ont toujours pas disparu de la surface de la planète. Voilà deux éléments dominants, qu'il s'agisse de Haïti, Mexico ou encore de pays d'Afrique. Ces deux éléments ont la plus grande incidence sur la vie des habitants.
Comme tous les ans, le World Press Photo est placé sous le patronage de la ville de Prague et un prix éponyme est remis à l'un des photographes. Cette année, c'est l'Irlandais Andrew McConnell qui reçoit le prix Praha. Une de ses photos a fait le tour du monde. Andrew McConnell.
I was sent to Kinshasa, the capital of Congo.
J'ai été envoyé à Kinshasa, la capitale du Congo, pour photographier l'orchestre symphonique Kimbanguiste, le seul orchestre symphonique de toute l'Afrique centrale. J'ai passé quelques jours avec eux et cette photo représente Joséphine Simba Pongo, joueuse de violoncelle. La force de cette photo, c'est qu'on y voit deux mondes. Joséphine qui répète, inspirée, derrière une enceinte et de l'autre côté un quartier pauvre et chaotique. Cette photo montre que l'on peut dépasser les problèmes de la vie quotidienne et qu'il existe autre chose.
Andrew McConnell préfère photographier les gens, les destins des individus, comme il l'a également fait dans son cycle sur le Sahara occidental. Plutôt que des photos de guerre, à proprement parler, un des thèmes les plus fréquents du World Press Photo, Andrew McConnell s'attache plutôt à montrer en quoi des conflits touchent les gens ordinaires dans leur quotidien. Les gens ordinaires, ce sont eux qui aujourd'hui font aussi l'information. Iran, Égypte, Syrie et autres pays secoués par des tentatives de démocratisation, les acteurs de l'histoire sont aussi ceux qui la captent en premier avec leur téléphone portable. Mais pour Andrew McConnell, cela ne remplace pas le métier de photoreporter.
Je pense que c'est complémentaire. Il y a plus d'images aujourd'hui qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Tout le monde y a accès grâce au téléphone ou à des appareils photo bon marché. Il n'y a pas un événement sans que des milliers de photos nous en parviennent. Je pense qu'il y a toujours de la place pour la photo de qualité, intelligente et profonde, mais il est certain que le citoyen journaliste va avoir un rôle plus important à l'avenir. J'espère que les deux pourront cohabiter.
Et c'est aussi l'avis de Michaela Kindlova.
Le monde s'est accéléré, de même que la possibilité de transmettre les photos aux médias. Le monde a rétréci. Je me souviens encore qu'il y a quelques années, il y avait tous les ans quelque chose que personne n'avait encore photographié. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais la photographie reste et sa spécificité, le fait que ce soit un moment qui est capté, rien ne pourra le supplanter. La technologie actuelle et le progrès n'ont pas fait de mal au photojournalisme. Au contraire, cela le soutient et lui sert d'accélérateur.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Prague, émission en langue française. Dans les Tchèques célèbres et moins célèbres aujourd'hui, Magdalena Hrozinková dresse le portrait d'une femme d'exception, Dagmar Šimková, qui a passé 14 ans dans le geôle communiste entre 1952 et 1966. Décédée en 1995 en Australie, elle a décrit cette terrible expérience, qui est aussi celle de plusieurs dizaines de milliers d'autres femmes tchèques et slovaques persécutées sous le régime totalitaire, dans son livre intitulé « Byli sme tam taky », titre que l'on pourrait traduire en français comme « Nous aussi, nous y étions ». ». Ce mince ouvrage ne lâche pas le lecteur dès les premières pages. Publié pour la première fois en 1980 dans la maison d'édition des époux Škvoretsky à Toronto, il a été réédité à Prague en 2010, illustré de nombreuses photographies. Elles ont été retrouvées par l'historienne Pavlina Kourova, qui prépare une biographie de Dagmar Shimkova et qui est aussi l'auteur d'une exposition itinérante retraçant son destin. Magdalena Rosinkova l'a rencontrée.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
L'homme en prison prend une allure tragique. C'est un lion captif, humilié, qui pleure à l'intérieur. La femme en prison devient un petit rongeur fou de rage, une martre ou une belette qui se met tout de suite à creuser la terre sous le plancher et qui en plus appelle les autres martres et belettes à la rejoindre, écrit Dagmar Shimkova dans son livre « Beli sme tam taky », nous aussi nous y étions. Devenir une belette est d'après elle un des moyens de survivre dans un lieu aussi désastreux et inhumain qu'est la prison dans un pays totalitaire. Enfant et adolescente, Dagmar Shimkova avait tous les atouts pour vivre une vie belle, heureuse et sans souci. Elle est née en mai 1929 dans une famille d'un banquier de Písek, une jolie ville en Bohême du Sud, construite sur les rives de la rivière Otava. C'était une famille unie et cultivée pour laquelle Yaroslav Shimek a construit une splendide villa située un peu à l'écart de Písek et entourée de verdure. Elle portait le nom de sa femme et de sa fille aînée, Marta. Alors que sa sœur était une passionnée de l'équitation, Dagmar aimait la musique. L'une des plus belles filles de Písek, aux longs cheveux bruns et aux grands yeux noirs, allait souvent danser dans le fameux café de l'hôtel La Rose Blanche. On écoute l'historienne Pavlina Kourova.
Elle aimait beaucoup la musique, elle avait du talent puisqu'elle jouait du piano. Dagmar aimait aussi danser. Petite fille, elle a appris à faire des claquettes. Jeune, elle adorait le jazz. Elle avait aussi du talent pour les arts plastiques. Elle illustrait pour ses neveux qu'elle ne connaissait pas à l'époque ses lettres de prison.
Yaroslav Shimek est mort subitement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Dagmar, âgée de 16 ans, a commencé à étudier les langues étrangères dans une école privée pour s'inscrire en 1948 à la faculté des lettres de l'université Charles, où elle devait étudier l'histoire de l'art et l'anglais. Mais avec l'arrivée des communistes au pouvoir, tout change pour cette famille étiquetée désormais comme bourgeoise et donc ennemie aux yeux des autorités. Une seule pièce de la Villa Marta est réservée à sa propriétaire et à ses deux filles. Pas question que Dagmar fasse des études, elle travaille comme ouvrière dans plusieurs entreprises et, avant son arrestation en 1952, comme aide-soignante à l'hôpital. 2 ans avant, sa sœur Marta réussit à s'enfuir en Australie. Dagmar et sa mère n'ont pas cette chance et n'échappent pas à l'arbitraire communiste. Dagmar distribue à Písek des tracts anticommunistes. 2 de ses amis, recherchés par la police, se réfugient pour quelques jours dans la villa. En 1952, âgée alors de 23 ans, Dagmar Shimkova est donc arrêtée et condamnée à 15 ans de prison pour des activités dirigées contre l'État. Sa mère va bientôt la suivre. Beaucoup plus tard, dans son exil australien, Dagmar allait se souvenir, dans son livre « Nous aussi, nous y étions », de cet enfer qui lui a volé sa jeunesse. C'est un récit à la fois terrifiant et passionnant, écrit sans pathos, d'une manière la plus sincère possible, parfois avec ironie et même avec humour, dans une langue belle et riche. Dans les geôles communistes, à Pardubice et ailleurs, comme dans le camp de travail quelque part en Slovaquie, les femmes sont humiliées au plus profond et sont mutilées moralement et physiquement, battues, sous-alimentées, tenues dans des conditions sanitaires inimaginables. Après la grande amnistie de 1960, notamment, les prisonnières politiques font l'objet d'attaques de la part des prisonnières de droit commun, avec qui elles partageaient les mêmes cellules. Pavlina Kourova.
Právě proto ona v tom vězení se trvávala tak dlouho.
Si Dagmar Shimkova est restée aussi longtemps en prison, si elle n'a pas été libérée lors de la grande amnistie, c'est parce qu'elle était un élément rebelle. Elle ne se laissait pas faire. Elle ne cessait de se plaindre auprès du ministère de l'Intérieur et d'autres institutions, par exemple du fait que les communistes, contrairement aux nazis, interdisaient aux prisonniers d'avoir la Bible et des objets religieux. Elle protestait contre le fait qu'il était interdit dans les prisons d'apprendre des langues étrangères. Lorsqu'on a découvert chez une prisonnière un bout de papier avec des mots étrangers, celle-ci risquait une correction, donc l'enfermement dans une cellule sans fenêtre où les femmes étaient nues et ne recevaient de la nourriture qu'une fois tous les 3 jours. Dagmar participait aussi aux grèves de la faim, c'était aussi une forme de rébellion contre leurs conditions de vie. Dans la prison de Pardubice, par exemple, les cellules étaient surpeuplées et à un moment donné, une partie du bâtiment risquait de s'effondrer.
Dans son livre, où Dagmar Shimkova raconte entre autres les destins de plusieurs prisonnières politiques, filles de koulaks ou de petits entrepreneurs, elle écrit de cette même prison surpeuplée que, je cite, « Plus jamais dans ma vie je n'ai goûté un café aussi bon que celui que l'on buvait dans les toilettes de la prison de Pardubice ». En effet, la complicité entre les prisonnières politiques, la circulation des pensées, était aussi un moyen de survie. Dagmar Shimkova nous parle de plusieurs femmes remarquables qu'elle a ainsi connues. Elle les appelle dans son livre par leur prénom, parfois par leur surnom. Pavlina Kourova a pu dévoiler leur identité à l'aide des archives. On trouve parmi elles Jeřina Zábranová, mère du poète tchèque Jan Zábrana, Nina Svobodová, qui mettait en scène en prison des spectacles improvisés, ou encore Magdalena Schwarzová, emprisonnée aussi par les nazis et qui vit aujourd'hui dans un monastère en Pologne. Mais toutes les activités intellectuelles dans la prison de Pardubice gravitaient autour de Růžena Vácková.
Beaucoup de prisonnières de l'époque se souviennent de Růžena Vácková, qu'elles appelaient Růženka. Professeure à l'université Charles, elle était plus âgée que les autres. Emprisonnée suite à sa participation à la marche des étudiants en 1948, elle n'a quitté la prison qu'en 1967. C'était une véritable autorité intellectuelle et morale pour ces jeunes filles qui ne pouvaient pas étudier. Dans les toilettes, elle leur donnait des conférences sur l'histoire de l'art et l'archéologie. Une autre prisonnière, Dagmar Skalova, a réussi à transcrire certaines de ses conférences. Suite à un accident, elle portait un corset et cachait le cahier dedans. Après 1965, les prisonnières ont réussi à le transporter hors de la prison. Dagmar Skalova a gardé ce cahier jusqu'à la révolution de velours et l'a transmis ensuite aux historiens de l'université Charles. C'est ainsi que les conférences de prison de Růžena Vácková ont pu être publiées sous forme de livres.
Dagmar Shimkova a quitté la prison en 1966. Elle a de nouveau travaillé comme ouvrière à Písek et vivait très modestement car tous les prisonniers politiques devaient payer à l'État une sorte de compensation pour leurs années de détention. Après l'invasion soviétique en Tchécoslovaquie de 1968, Dagmar et sa mère, comme beaucoup d'anciens prisonniers politiques, prennent le chemin de l'exil et vont rejoindre Marta en Australie. Elles vivent d'abord dans le bush australien où le mari de Marta travaille sur un chantier et s'installe ensuite à Perth, Pavlina Kourova.
Nous savons de ses lettres de l'époque qu'elle était fascinée par les dizaines d'espèces de perroquets, par les crocodiles et les fleurs qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Elle devait ressentir une grande liberté. À Perth, Dagmar a travaillé dans un restaurant et aussi un peu comme mannequin parce qu'elle a toujours été très belle. Elle a aussi suivi un cours de cascadeur qui était proposé sur le tournage d'un film. Tout se passait bien jusqu'à la mort de sa mère en 1970. Là, elle a perdu la personne la plus proche qui avait en plus cette même expérience de la prison et ses lettres se sont assombries. Je crois que cela a été un autre coup très dur pour elle.
Un coup dur que Dagmar Shimkova a tout de même surmonté. Diplômée d'histoire de l'art et de travail social à l'université, elle a travaillé entre autres comme thérapeute en prison. Parallèlement, elle s'est consacrée à une autre activité intéressante, à la création de tableaux et de bijoux en émail. « Je ne parle ni de la prison, ni de ma situation financière, ni de ma vie sentimentale. Je n'aime pas les regards compatissants », écrit Dagmar Shimkova à la fin de son livre, dans un des rares passages évoquant sa vie en Australie. Celle-ci a été quand même marquée, autant que l'on sache, par 2 rencontres. D'abord avec celle du chanteur tchèque Karel Krell, qui a partagé avec Dagmar Shimkova son expérience de l'exil. C'est lui qui l'a poussée à écrire le récit de sa vie. La deuxième rencontre a été celle qu'elle a faite un jour en rentrant du travail dans un arrêt de bus avec un immigré allemand en Australie et qui est devenu son compagnon à la fin de sa vie. Dagmar Shimkova est revenue à plusieurs reprises dans son pays d'origine. Elle est morte du cancer en février 1995 à Perth. Récemment, son neveu australien et sa famille ont pris contact avec Pavlina Kourova et ont emmené à Prague une valise remplie de documents, de lettres, de photographies et de tableaux de Dagmar Shimkova. Ces archives familiales figureront dans la biographie de Dagmar, préparée par Pavlina Kourova et qui est à paraître aux éditions Academia.
L'exposition sur Dagmar Shimkova avec des commentaires en tchèque et en anglais est à voir jusqu'à la mi-octobre à Jablonné Natvorlitsy. Cette année encore, elle devrait être présentée à la galerie Dox à Prague ainsi qu'à Toronto. Sachez enfin que cette année, Dagmar Shimkova figure parmi les candidats à la haute distinction d'État qui seront remises le jour de la fête nationale du 28 octobre. Merci de votre attention et de votre fidélité à Radio Prague. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos programmes sur www.radio.cz/fr.